VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel au Nigeria. Une femme kamikaze a activé aujourd'hui sa charge explosive juste avant un contrôle policier à Maïdougouri dans le nord-est du pays, provoquant sa mort et celle d'un autre kamikaze, a indiqué la police. Une troisième kamikaze a été arrêtée, a indiqué Victor Isoukou, le porte-parole de la police de l'État de Borno, dont la capitale Maïdougouri est l'épicentre de l'insurrection du groupe islamiste armé Boko Haram. Le Canada a extradé vers Kigali un officier de l'ancienne armée rwandaise soupçonné de participation au génocide des Tutsis de 1994. Jean Bosco Siyuboka, âgé de 50 ans, est notamment accusé d'avoir participé à l'extermination de plus de 72 Tutsis réfugiés dans le bâtiment du Centre d'études des langues africaines à Kigali, ainsi que d'avoir pris part à des réunions à Nyarugenge, un district de la capitale au cours desquelles des massacres auraient été planifiés. En République démocratique du Congo, la nomination de Sami Badibanga au poste de premier ministre continue de susciter des réactions auprès des acteurs politiques et de la société civile. Reportage de Dominique Didanga de Top Congo FM.
Il était pourtant favori des pronostics pour être désigné comme le premier ministre du futur gouvernement. Le président de l'Union pour la Nation congolaise, arrivé troisième au terme de l'élection présidentielle de 2011, dit prendre acte de la nomination de Sami Badibanga. Vital Kamerhe l'a dit lors d'une réunion avec les membres de son parti, juste après la publication de l'ordonnance présidentielle. Il a affirmé, je cite, « Mes ambitions ont toujours été au-dessus du poste de Premier ministre », propos qui ne cache pas l'intention de Vital Kamerhe de se présenter à la prochaine présidentielle prévue en avril 2018 selon l'accord de la Cité de l'Union africaine. Pour sa part, le député national Toussaint Alunga, membre du groupe parlementaire UDPS et allié, d'où est issu Sami Badibanga, félicite son collègue mais réitère son appel à un large consensus sur le processus électoral.
Sami est nommé, c'est lui qui fut notre collègue et président du groupe parlementaire. Nous continuons à croire que les contacts des évêques continueraient à nous aider à produire ce que nous attendons, un document synthèse, à savoir l'inclusivité. Le premier ministre est nommé, mais nous pensons que pour affronter la parenthèse après le 19, il nous faut un document synthèse, il nous faut l'inclusivité. Si nous aimons réellement ce pays et si nous voulons la paix durable après le 19 ne viendra que de ce document synthèse ou l'amendement de cet accord. C'est un collègue, pourquoi ne pas le féliciter? C'est un collègue, je le félicite là où il est, mais j'appartiens au rassemblement.
Côté majorité présidentielle, on affirme que la nomination d'un opposant au poste de chef de gouvernement d'Union nationale est un tournant décisif dans la mise en œuvre des conclusions de l'accord conclu à la Cité de l'Union africaine. André Alain Atundu est porte-parole de la majorité présidentielle.
La majorité présidentielle salue cette décision du président de la République comme une concrétisation et une consécration de la volonté de la majorité présidentielle telle que consignée dans l'accord politique conclu. Sur le plan de principe, ceci respecte cela. Ceci dépend évidemment des paramètres propres au président de la République par rapport aux objectifs et à la coopération dans la gestion du. C'est une avancée significative, je dirais même que c'est un tournant déterminant.
Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, lui, estime que la décision du chef de l'État est précipitée alors qu'il fallait d'abord un consensus plus large. Néanmoins, Jonas Tchombela invite le nouvel exécutif à envoyer des signaux forts dès le départ afin d'apaiser les esprits.
Pour le moment, nous regrettons que ce soit aussi si précipité. On aurait souhaité que M. Sami soit issu d'un consensus inclusif afin qu'il ait le champ libre pour travailler. Et là, il part sur des bases controversées, surtout qu'il vient encore d'une branche refusée de l'UDPS.
À l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS d'Étienne Tshisekedi, on se refuse pour le moment à tout commentaire. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au moins 6 militants de l'opposition zimbabwéenne, dont le frère de l'ancien journaliste Ite Zamara, porté disparu depuis mars 2015, ont été frappés par des inconnus vendredi à quelques heures des manifestations antigouvernementales. Les militants ont été kidnappés, les voitures appartenant à deux d'entre eux incendiées tôt ce matin, selon Sylvanos Mudzovova, membre actif du mouvement Tajamuka à la pointe de la contestation contre le président Robert Mugabe. Trois des six opposants kidnappés ont été relâchés et admis à l'hôpital après avoir été passés à tabac en rase campagne, a ajouté Sylvanos Mudzovova à l'AFP. Parmi eux figurent Patson Zamara, le frère d'Ité, Les trois autres personnes enlevées sont toujours portées et disparues.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils allaient proposer au Conseil de sécurité d'imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud pour empêcher des atrocités de masse. Mais la Russie a rejeté l'idée et la Chine s'est montrée réticente. Samantha Power, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a souligné que les 13 000 casques bleus de la mission de l'ONU n'avaient pas les moyens d'empêcher un génocide au Soudan du Sud, comme l'a reconnu le secrétaire général Ban Ki-moon dans son dernier rapport. De plus, le gouvernement sud-soudanais s'oppose au déploiement d'une force africaine de protection de 4 000 hommes qui pourrait l'épauler. Les négociateurs de près de 190 pays mettent un point final ce vendredi à Marrakech à la 22e conférence de l'ONU sur le climat, censée progresser dans l'application de l'accord de Paris malgré l'incertitude créée par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. La ligne de fracture entre pays développés et en développement a ressurgi et les réunions au niveau ministériel cette semaine n'ont pas permis de progrès notables. Que gagne l'Afrique à Marrakech? Écoutez Enzo Senga de l'ONG centrafricaine, jeune volontaire de l'environnement.
De Paris, il était question que les pays européens, c'est-à-dire les pays les pollueurs, puissent accorder 100 milliards de dollars aux pays africains pour lutter contre les changements climatiques. Et là, je pense, lors de haut segment, il y avait une rencontre avec les pays africains et je pense que les pays européens, comme le G7, réaffirment son engagement à soutenir ces processus. Le Maroc, qui est le pays hôte aussi, comme le roi a dit, il demande à ce qu'il puisse suivre cette conférence, c'est-à-dire le Maroc sera le chef de file pour faire en sorte que voilà, cet argent soit décaissé ou encore pour faire en sorte que ce financement soit réalisé pour que les pays africains puissent s'adapter à ce concept de changement climatique. Donc, je pense que dans l'ensemble, le groupe africain, c'était l'idée, c'était cette initiative qu'ils ont pris. Donc, c'est l'idée de réaliser ces 100 milliards de dollars qui doivent être accordés aux pays africains.
Enzo Senga de l'ONG centrafricaine, JVE. En Tunisie, l'instance Vérité et Dignité a commencé ses premières audiences publiques hier jeudi et ces audiences se poursuivaient aujourd'hui. L'instance est chargée de faire la lumière sur les violations des droits humains dans le pays. Lofti Azouz, directeur exécutif d'Amnesty International à Tunis, nous parle d'un moment historique.
L'audition, ça va concerner les victimes des violations des droits humains et ainsi que pour la première fois, on va entendre donc des tortionnaires qui parlent des violations des droits humains et qui s'excusent de ces violations. C'est pour cela qu'on considère un moment historique qui peut aider à bâtir une nouvelle Tunisie. On a la question de la vérité, la question de la justice, la question d'assurer la transition vers un pays démocratique qui assure le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. C'est pour cela, ce genre d'audition, ça va jouer un rôle très important.
Lofti Azouz, directeur exécutif d'Amnesty International en Tunisie. Les États-Unis critiquent la Cour pénale internationale, la CPI. Washington n'accepte pas l'autorité de cette juridiction qui a évoqué cette semaine une enquête contre le militaire et espion en Afghanistan, tout en accusant le Moscou de perpétrer des actes inexcusables en violation du droit international en Syrie. La Maison-Blanche a rejeté cette semaine des résultats préliminaires dévoilés par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, sur d'éventuels crimes de guerre qu'auraient commis en Afghanistan dans les années 2000 des soldats américains et agents de la CIA.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et le président élu Donald Trump envisage de nommer Mitt Romney, candidat malheureux des Républicains face à Barack Obama en 2012 au poste de secrétaire d'État. C'est ce que croit savoir la chaîne de télévision NBC. Âgé de 69 ans, l'ancien gouverneur du Massachusetts doit rencontrer Donald Trump dimanche pour évoquer cette possibilité, a ajouté la chaîne. Les habitants des quartiers rebelles d'Alep terrés chez eux aujourd'hui en raison d'intenses raids du régime syrien précédés dans la nuit par des combats au sol d'une extrême violence selon l'AFP et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Dans la nuit, des combats ont opposé les rebelles aux forces pro-régime à Sher Saïd, un quartier du sud d'Alep que l'armée tente de prendre depuis plusieurs semaines. Et puis, un audit israélien de la guerre dans la bande de Gaza en 2014 accuse le premier ministre Benjamin Netanyahou d'avoir insuffisamment préparé son pays à la menace des tunnels creusés depuis l'enclave palestinienne. Le contrôleur de l'État, Youssef Chafira, a remis aujourd'hui à plusieurs ministres et responsables militaires la version finale du rapport diligenté peu après la guerre de 2014. Jean-Roger Billon, bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.